Vous écoutez France Culture.
Je me rappelle d'une fête à la Nouvelle-Orléans qui s'appelait Wild Wild West Party. Et moi, évidemment, j'avais rien compris. J'avais emprunté un chapeau de cow-boy. Puis j'avais une petite veste turque qui faisait assez cow-boy finalement. Et arrivé sur place, je me suis aperçue que toutes les filles étaient soit en indienne, soit en pute. Moi, j'étais le seul cow-boy. Mais dans cet immense appartement qui appartenait à un photographe, un loft entier du premier étage avait reconstitué une atmosphère de western. C'est-à-dire, on mangeait par terre des pains de maïs et toutes sortes de nourriture de l'époque. On avait des espèces de petits sapins et quatre télé avec des westerns qui tournaient en fond.
Benoît Lagan,
Eric Vera.
Série télé,
l'Amérique en 24 épisodes. Ce soir, épisode 5.
Le western, l'Amérique et sa frontière.
Il y a eu des rires, et l'instant d'après, il n'était plus là. Il y avait un homme entièrement dévoué à l'amour qu'il portait à son pays, un homme en pleine ascension qui avait encore beaucoup de choses à vivre, et l'instant d'après, il n'était plus là. Il y avait un homme,
aujourd'hui,
père d'un
le
petit
monde
garçon,
est orphelin,
et d'une petite fille.
Et grâce à John Fitzgerald Kennedy, nous avons les moyens de devenir de meilleurs Américains.
Il n'était plus là.
Le vécu de l'Américain est un vécu avec une télévision portable intégrée dans son cerveau.
Brigitte Gauthier, universitaire.
C'est-à-dire qu'on a toujours regardé avec une sorte de mépris l'histoire des États-Unis comme s'ils n'en avaient pas. Mais finalement, ils en ont une autre, qui est cette histoire télévisuelle. Cette histoire extrêmement condensée, extrêmement finalement subtile, complexe, critique, qui a un regard, qui est déjà un regard polémique à l'intérieur des moments.
Après avoir été abattu
par un tireur non identifié.
Pendant
que le cortège traversait le centre de Dallas.
Le président est mort.
Environ 25 minutes. Après qu'on ait tiré sur lui. Il y a environ 15 minutes.
Ce communiqué nous est transmis de Dallas par l'envoyé de NBC, Bob McNeil.
Il faut distinguer deux choses. La violence comme constitutive de la civilisation américaine, histoire de la frontière, et la violence de Kennedy.
Jean-Baptiste Torret, universitaire et critique.
C'est que, oui, c'est une situation évidemment de la violence ou autre, si c'était que jusque-là, la violence dans la mythologie américaine et dans son histoire est une violence qu'on pourrait presque qualifier de positive. Mmh. Elle servait à évangéliser, à construire. L'histoire de la frontière, c'est la violence, elle sert à quoi? Elle sert à conquérir un territoire sauvage, qu'on appelait le wilderness, pour imposer finalement la civilisation. Donc c'est de la bonne violence. Et le cinéma américain classique, dans le western par exemple, dire la violence finalement était bénéfique. Elle permettait de construire quelque chose. Donc elle avait un sens. Et donc elle était acceptée, c'est-à-dire qu'elle était constituée de la nation américaine. Et effectivement, il y a de la violence, mais finalement, vaut mieux de la violence, puisque grâce à cette violence, on construit quelque chose. On va vers la démocratie, on va vers l'évangélisation, on va vers le bonheur, peu importe. Bon. Dans le cas de Kennedy, c'est évidemment tout l'inverse, puisque Kennedy, au contraire, c'est à la fois un espoir, une espèce de figure qui deviendra même, dont l'assassinat, finalement, permettra, on pourrait presque dire, la mythification. Et donc, on passe d'une violence, on pourrait dire, justifiée historiquement, à une violence qui devient une violence insensée. Jusque-là, quand John Wayne sort son Colt, c'est pas pour rien. C'est juste parce qu'il veut reconquérir sa femme, il veut tuer un Indien, tuer un méchant fermier, peu importe. Il veut reconquérir quelque chose. On pourrait dire qu'il le fait pour la bonne cause. C'est l'ultime recours. À partir de la phase des années 60, la violence, elle devient détachée de sa propre justification. Et on a affaire à des personnages, Lee Marvin dans Le Point de Non-Retour de John Borman, par exemple, à des personnages qui sont toujours à la limite du psychopathe, où la violence, finalement, n'intervient plus que pour elle-même.
On a dit que l'Ouest fut conquis avec des fusils et de l'or. Ce n'est pas exact. Il fut conquis grâce au courage de gens simples qui cheminèrent dans leurs lourds chariots toujours plus avant vers l'ouest, au milieu de 3000 km² de terrifiantes et désertiques contrées. Certains étaient poussés par la fascination de l'or, mais la plupart allaient avec leur famille vers les séductions d'une vie nouvelle. Nous allons vous conter l'histoire d'une de ces familles. Il s'appelait McCahan.
Le début de la télévision sérielle est marqué par la grande phase des westerns qui fait rêver, et en même temps c'est l'identité américaine, les grands espaces, des paysages qui sont extrêmement bien mis en valeur, qui sont pas simplement du décor, mais qui font ressortir l'aspect grandiose et magique. Mais ces paysages, s'ils ont une dimension qui sont aussi cosmiques finalement, c'est parce qu'ils vont traiter l'équivalent de ce qui correspondait dans la civilisation par exemple britannique aux morality plays, aux pièces morales du Moyen-Âge, c'est-à-dire les enjeux qui se cachent derrière les westerns, c'est le bien et le mal.
Alors rappelez-vous, Eric, dans les épisodes précédents, nous avons rapidement évoqué les serials, ces fameuses séries cinématographiques diffusées dans les salles obscures. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la combinaison entre le déclin de ce genre au cinéma et la naissance de la télévision est un petit peu à l'origine de la présence importante du western à la télé, parce que l'industrie de la série B, qui fabriquait énormément de films de western pour le cinéma, a pivoté et allé du côté de la télévision pour produire les premières séries western donc de la télé. Le meilleur exemple, je trouve, pour en parler, c'est cette fameuse série Opalong Cassidy, qui était une série destinée pour le cinéma. Il y a eu 50 films diffusés dans les salles obscures. Ces 50 films ont été remaniés pour la télévision, et NBC en juin 49 a pu comme ça diffuser la série Opalong Cassidy. Mais c'est aussi l'époque où il y a eu le fameux Davy Crockett.
Oui, on connaît tous la musique du générique, et je ne vais pas vous demander de la chanter, Benoît. Crockett, c'est une série importante dans l'histoire de la télévision, mais pas pour elle-même finalement, mais surtout parce que Davy Crockett, ça marque l'arrivée des studios de cinéma dans le cycle de production des fictions télé. Hein. L'âge adulte de la télévision commence là. Avant, Hollywood regardait la télévision avec ce drôle de sentiment contradictoire de la condescendance, on n'y croit pas, mais aussi un petit peu de la peur. Et si jamais cette télévision, elle marchait, elle venait nous concurrencer. Donc ABC et Disney, donc, comme vous l'avez dit, vont se lancer dans des activités communes, donc via Davy Crockett. ABC diffuse du Disney, donc elle est fière de diffuser du Disney. Et de son côté, Disney en profite pour communiquer sur ses parcs d'attractions. Voilà, donc il y a un échange. C'est les premiers échanges, je veux dire, de l'ère... C'est le merchandising, hein, la toque de Davy Crockett. ABC et Disney vont en vendre des centaines de milliers. Davy Crockett, on va dire que c'est le premier blockbuster de l'histoire de la télévision. Aucun studio ne voulait donc se pervertir dans la télévision, mais une fois qu'il y en a un qui va passer le pas, tout le monde va suivre. Exemple, la Warner, qui va produire après Maverick, par exemple, série avec James Garner.
Alors à partir de 1955, débarque sur les écrans aux États-Unis la fameuse série Gunsmoke, qui est qualifiée de premier western adulte, parce que c'est la première série du genre destinée à un public adulte. Cette série raconte les aventures d'un marshal, Matt Dillon, installé à Dodge City. Ce personnage est interprété par le comédien James Harness. Alors, pour la petite histoire, James Harness n'était pas au départ souhaité par la production. La production voulait John Wayne dans le rôle de Matt Dillon, sauf qu'il déclina l'offre et proposa James Harness, qui n'était rien d'autre que sa doublure.
Vous aimez ou vous n'aimez pas Gunsmoke, mais bon, faut reconnaître que c'est un monument de la série télé américaine. 20 saisons, c'est pas rien, c'est le record hein, pour l'instant. Faut aussi rappeler quand même que fin des années 50, je prends par exemple la saison 58-59, 7 des 10 meilleures audiences de l'année, c'est des westerns qui les réalisent. Donc on voit là la prédominance du genre.
Donc le 10 septembre 1955 apparaît sur les écrans Gunsmoke, et John Wayne vient alors ce soir-là face caméra pour lancer la fameuse série.
Good evening. My name's Wayne. Some of you may have seen me before. I hope so. I've been kicking around Hollywood a long time. I've made a lot of pictures out here, all kinds. And some of them have been westerns. And that's what I'm here to tell you about tonight, a western. A new television show called Gunsmoke. No, I'm not in it. I wish I were, though, because I think it's the best thing of its kind that's come along. And I hope you'll agree with me. It's honest, it's adult, it's realistic. When I first heard about the show Gunsmoke, I knew there was only one man to play in it, James Harness. He's a young fella and maybe new to some of you, but I've worked with him and I predict he'll be a big star. So you might as well get used to him, like you've had to get used to me. And now I'm proud to present my friend Jim Harness in Gunsmoke.
Alors là, c'est formidable parce que on a une érosion des frontières entre le réel et le télévisuel. Et on a un passage, encore une fois, à l'intérieur, à l'extérieur, jusqu'à l'inconscient des spectateurs. John Wayne, le grand héros éternel, permet à cette série d'atteindre un niveau qui est le niveau du mythe. Et le succès de ces séries majeures correspond à la création de nombreux mythes qui vont représenter finalement l'image de marque des États-Unis.
Le personnage, le cow-boy, le héros du western, c'est le héros par excellence de la fiction américaine, tout simplement. Et on pourrait dire de Gunsmoke à Au nom de la loi, etc. C'est-à-dire que la télévision américaine est quelque chose qui évidemment s'approprie, quelque chose qui est propre à la mythologie américaine, en l'occurrence le personnage du cow-boy, même si elle se l'approprie vraiment sur un mode plus classique, on pourrait dire, plus familial. Mais dès la fin des années 60, avec le surgissement de la violence, la remise en cause du J contestataire, le surgissement, je sais pas, de Little Big Man, de Arthur Penn ou de La Horde Sauvage, ou des westerns écologiques à la Emma Johnson ou autre, c'est évident qu'il n'y a plus de western à la télévision. C'est plus possible de faire un western comme avant. Or, la télévision a fait des westerns, notamment sur un mode extrêmement classique, on pourrait dire sur un mode intime, pour des raisons de budget aussi. On ne pouvait pas filmer de grandes chevauchées. Enfin bref, c'est souvent la petite vie d'une communauté avec 2, 3, 4, 5 personnages qui s'affrontent. Mais on n'a pas, on est très très loin pour le coup des grands espaces. Mais il me semble tout à fait naturel que la télévision, pour le coup, s'approprie le western qui est le grand récit américain. Enfin, le western, c'est le grand récit américain, tout simplement.
Gunsmoke.
Que j'ai découvert Gunsmoke après avoir découvert The Thing from Another World de Howard Hawks et Christian Nibby. Pour la simple et bonne raison que le personnage qui joue la créature un peu végétale, monstre, dans ce film de SF des années 50, est joué par James Harness, qui joue le rôle principal de Gunsmoke. Donc voilà, pour moi, le souvenir, pour moi, c'est une série. C'est-à-dire que c'est une sorte de réaffirmation extrêmement conservatrice, mais de ce qu'est une mythologie qu'on essaie de vouloir réaffirmer. Hein, contrairement au western plus critique qui surgira lui au cinéma, qui tente justement à déconstruire cette mythologie-là. À la télévision, on ne fait que réaffirmer une mythologie déjà très très en place. Les bons, les méchants, l'homme qui veut construire un foyer, qui n'exerce la violence que pour de bonnes raisons, le besoin de se settle, comme on dit en américain, de se fixer, d'avoir une famille, un troupeau, peu importe, avec des enjeux toujours extrêmement binaire, Là, pour le coup, c'est là, ce sont des séries qui sont datées, si qu'on peut prendre comme des presque là, pour le coup des symptômes ou qui ont le parfum d'époque. Voilà ce que c'était que l'Amérique des années 50.
On peut difficilement mettre de parler de western adulte, de western sérieux, sans parler de Wanted Dead or Alive, au nom de la loi en français. Hein, une série de 58, 94 épisodes, donc pas trop longue, qui va révéler une future star du cinéma hollywoodien, Steve McQueen. Donc Steve McQueen qui interprète Joss Randall, un chasseur de primes. La série détonne parce qu'en fait elle n'exalte pas les valeurs de l'Ouest, comme pourrait d'ailleurs le faire plutôt Gunsmoke, série on va dire plus conservatrice. Hein. Donc une ambiance, le jeu animal de McQueen, et puis un duel physique ou psychologique à chaque épisode, c'est tout simple, mais c'est incroyablement efficace.
Hey Wilcox! Wilcox!
Hi Marshall.
I thought maybe you weren't in.
I'm kind of busy, mister. Wonder if you could come back. How about it?
Gosh!
Avec Au nom de la loi et le fusil au canon court de Steve McQueen, apparaît un personnage qui est une sorte de, on pourrait dire, de personnage presque pré-moderne, qui est un individualiste. Hein, qui est solitaire, qui ne cherche pas à avoir un foyer, donc déjà on commence à s'écarter de la mythologie, on pourrait dire d'une sorte de pré-Clint Eastwood, pré-Ange Exterminateur, si ce n'est que là il travaille dans le cadre de la loi, hein, d'où le titre français du film, Au nom de la loi, c'est-à-dire qu'il ne fait que respecter la loi, mais déjà on sent que c'est un personnage qui croit beaucoup moins, on pourrait dire, aux valeurs, famille, etc., de l'idéologie américaine, et il commence à agir pour son propre compte. Après, en gros, on va passer du côté de Dirty Harry. Hein, c'est la troisième phase, ou du tueur à gage.
Soyez pas le fameux Randall.
Si.
Je suis Luis Portilla, le père de Juan. Je sais ce qui vous amène, et je vous préviens tout de suite. Mon fils n'est pas un animal bon à être traqué. Il n'a rien d'un tueur. Il ne pèserait pas lourd contre votre truc.
Écoutez, monsieur Portilla, je n'ai jamais entendu parler de votre fils.
Si vous avez dans l'idée de le ramener vivant, ça ira peut-être. Dans le cas contraire, votre route pourrait être semée d'embûches.
Il faut dire que dans l'évolution du western, et en fait, Au nom de la loi arrive dans cette espèce de milieu-là, c'est qu'on peut dire, on a d'un côté Gunsmoke, version extrêmement traditionnelle, conservatrice, en fait, qui rejoue à la télévision le western le plus, quand je dis le plus classique, non, parce que classique, c'est pas un terme péjoratif, le plus conservateur qui soit. Bon. Après, dans l'évolution du western, il faut pas oublier qu'en 57, Arthur Penn réalise Le Gaucher, avec Paul Newman, acteur de la même génération d'ailleurs que Steve McQueen. Lorsque Arthur Penn fait Le Gaucher, commence à arriver une sorte de brisure dans le westerner classique. C'est le moment où la psychanalyse s'invite dans le western. Donc là, on n'a plus du tout l'homme qui fait corps avec la nature, qui est plein. Pas du tout, il commence à douter de lui-même, il se pose des questions, problème de père, d'ego. Là, on a vraiment tout le schéma freudien dans le Gaucher. Entre les deux, entre, on pourrait dire, le conservateur James Harness dans Gunsmoke et Paul Newman dans Le Gaucher, pardon, on a Steve McQueen, qui est une figure de l'entre-deux, qui montre très bien que à la fois le personnage va commencer à quitter le foyer, va commencer à s'isoler un peu de cette vision un peu puritaine, un peu, oui, conservatrice de l'Amérique, et ne franchit pas encore le cap de la névrose. Mais il est évident qu'Au nom de la loi, réalisé 10 ans plus tard, on aurait eu un personnage qui se serait demandé, mais finalement, c'est quoi la loi? Au nom de quoi j'agis? Est-ce que les méchants sont vraiment des méchants? Est-ce que ceux que je défends sont vraiment des gens si bien que ça? Est-ce que l'agence Pinkerton sont des gens qui sont respectables? Voilà, c'est-à-dire qu'on sent bien que Steve McQueen, à ce moment-là, il arrive presque un peu trop tôt. Hein, mais juste après, c'est Le Gaucher ou c'est La Horde Sauvage. Enfin, je veux dire, c'est le moment où on ne fera plus croire à personne dans l'Amérique de la fin des années 60 que le bien, le mal, ou que la ligne qui sépare la loi de sa transgression sont claires. Ça, c'est une évidence.
Excitement that makes it America's favorite. Drama that has brought it international acclaim. See the award-winning Bonanza, starring Lorne Greene, Dan Blocker, and Michael Landon, In Color Sunday.
Alors dans les années 50, Eric, vous le disiez très justement tout à l'heure, c'est la décennie du western avec des héros quasi uniques, Matt Dillon dans Gunsmoke, Josh Randall dans Au nom de la loi. Sauf que dans les années 60, même à la fin des années 50, les chaînes de télévision veulent un petit peu donner un coup de fouet un peu au genre et veulent changer la donne. Et donc ils décident de sortir du simple héros unique pour créer des héros collectifs. Je pense par exemple au fameux Bonanza, ouais, qui débute en 1959 et qui finit en 1973. Ce qui est assez intéressant quand on étudie Bonanza, c'est que c'est une série qui a été quand même assez longue et qu'elle l'ouvre et elle clôt cette période du western familial. C'est-à-dire que c'est la première du genre et quand en 1973 elle se termine, je rappelle que dans Bonanza, il y a un fameux personnage, Little Joe, qui est interprété par Michael Landon. Michael Landon est le fameux comédien qui interprétera Charlie Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie un an plus tard. Et avec La Petite Maison dans la Prairie, ça y est, on a passé un cap. On sort du western pour être vraiment dans la chronique familiale.
Bonanza, je vous embête toujours avec mes histoires, mais Bonanza, c'est déjà 350 millions de téléspectateurs dans le monde quand ça passe. Donc pour vous prouver que le business est déjà bien lancé et qu'on exporte les séries et que le monde de la télé américaine est partout, je trouve que le chiffre parle. 1965, c'est aussi une date importante pour le western. Je pense à The Wild Wild West, Les Mystères de l'Ouest, une série qui est complètement dans un autre registre que le western familial, mais elle est intéressante à plusieurs titres. Déjà, c'est moins un western qu'une série d'espionnage, hein, parce que la série met en scène en fait un couple d'agents du gouvernement qui travaillent directement pour le président des États-Unis. Et donc on est dans un mélange anachronique de western, d'espionnage. C'est aussi une série incroyablement moderne. Michael Garrison, qui est producteur, créateur de la série, qui ne faisait pas secret de son homosexualité à l'époque, fait de la série en fait une œuvre avec différents niveaux de lecture. Et bon, bien sûr, les tenues en cuir de James West quand il n'est pas torse nu et ligoté de tous les côtés.
Et parlez-nous d'Artemus Gordon.
Les déguisements féminins d'Artemus Gordon, le rôle des femmes, hein, simple faire-valoir ou alors méchante, un peu stupide. Tout ça, bien sûr, est un discours annexe que les gens ne retiendront pas forcément au premier chef, mais qui montre bien que la série western en a fini avec une simple lecture.
Et avec ce fameux générique, vous qui aimez les génériques, Eric, on est dans l'univers du dessin animé.
C'est de l'animation, c'est du split screen, voire même du multi split screen.
Et avant 24 heures chrono.
Bien avant 24 heures chrono et bien avant Manix d'ailleurs. Mmh. Et on y voit effectivement James West.
Il aime pas trop les femmes, ce monsieur.
Mais il en frappe une hein, d'ailleurs dans le générique. Oh, et puis il y a cette incroyable musique hein, qui nous marque. Bon. Vous la faites très bien, voilà. Mais attendez, c'était vous qui jouiez le générique, Benoît ? Vous avez quel âge ?
Je pense que Les Mystères de l'Ouest, c'est d'abord l'apparition de quelque chose qui apparaîtra dans les années 60-70, qui est l'apparition du second degré aussi, du jeu. C'est-à-dire que la dimension ludique, elle apparaît pas dans la série télévision américaine classique, en tout cas pas comme principe ou comme dispositif. Alors que dans Les Mystères de l'Ouest, ce qui fait le charme de la série, évidemment, c'est le côté post-James Bond, etc., sont les gadgets. C'est la façon dont d'un seul coup, la télévision, comme le cinéma d'ailleurs au même moment, se prend comme, on pourrait dire, comme objet et jouit de lui-même. C'est comment je m'amuse avec une machine rutilante. C'est ça le mystère de l'Ouest. C'est déjà une espèce de série qui est une série que j'aime beaucoup d'ailleurs pour cette raison là qui est déjà du côté de la mise en abîme, qui à mon avis idéologiquement ne dit absolument rien d'autre que ça, hein, qui est une espèce de c'est un mélange entre le western dont on a tout oublié, si ce n'est que ce n'est plus qu'un magasin d'accessoires, c'est ça. Robert Conrad, bien sûr, mais Robert Conrad dans le film, on sent qu'il est passé 2 heures avant au magasin d'accessoires, avec son sidekick à côté qui lui a mis des tenues de vieille femme ou autre, et il déplie toute la panoplie de l'histoire de l'Ouest, dans une ambiance évidemment James Bond, mais c'est l'homme au pistolet d'or croisant Gunsmoke, quoi.
Jason?
Here.
James West, sir. You were expecting me.
Was I?
The president sent a letter saying I was coming.
Had he? Well, what with the Iroquois getting a little out of hand lately, the mail service is a little less than perfect. Ah, trucker, you blasted butcher!
Donc les années 70 voient apparaître des westerns atypiques où l'on s'éloigne des figures du justicier solitaire et du shérif. Je pense par exemple à Hank Ramsey, enquêteur scientifique, à Kung Fu, un western non violent.
Avec David Carradine.
Voilà, petit scarabée. Nichols, un journaliste au Far West. Donc on voit bien qu'on s'éloigne un petit peu des canons ancestraux du western. Dans les années 80 et 90, le western a une présence quasi anecdotique à la télévision américaine, même si on voit quelques grandes séries, je pense à par exemple Hanson Dove, hein, et dans les années 90-2000, on va voir par exemple Deadwood, hein, une série de HBO, qui donne enfin une image, on va dire, juste de la conquête de l'Ouest.
Shérif, vous faites quoi? Vous écrivez une lettre?
Mon journal.
Votre journal? C'est bien. Vous savez, je voulais aller à Deadwood, tout comme vous.
Ah oui, c'est vrai ça?
Ouais, moi je voulais m'installer. Il n'y a aucune loi à Deadwood. C'est vrai ça?
On est sur des terres indiennes.
Alors comme ça, vous voulez plus être shérif?
Je vais à Deadwood pour vendre toutes sortes d'articles, avec mon associé.
Si j'y étais allé, j'aurais fait de la prospection. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pas de loi. L'or se trouve simplement, comme ça, au fond des torrents. Et moi, il a fallu que je me fasse arrêter pour avoir soi-disant volé le canasson de Byron Samson.
Faut avouer que c'était pas terrible comme idée, hein.
Il faut pas oublier que derrière Deadwood, il y a plusieurs personnes, dont Walter Hill. Bon. Walter Hill, c'est quand même l'homme qui a fait le gang des frères James, hein, 72, hein, il y a 35 ans. Donc c'est-à-dire qu'à mon avis, aujourd'hui, la série télé, finalement, ne fait que rattraper, en fait, le wagon de la fiction.
Allez, grouille-toi, Belloc, mes hommes et moi, on en a marre. Et je te garantis qu'on va pas attendre, on veut voir ce fils de salope. Alors jette ton insigne de shérif et sors de cette putain de baraque.
Je vais tout de suite exécuter la sentence. Il sera pendu selon la loi.
Ton associé, toi, tirez-vous! Allez à Deadwood! Joue pas au malin, tu fais pas le poids!
Reste où tu es et arrête de brailler, face de truie.
Non, attendez. Non, attendez, non, c'est pas juste. Il y a ma sœur qui doit venir demain matin.
Qu'est-ce que tu voulais lui dire?
C'est pas assez haut, je vais mettre 20 minutes à crever.
Ça ira vite, t'inquiète pas. Allez, monte là-dessus. Qu'est-ce que tu voulais dire à ta sœur?
Arrête, Belloc, ne touche pas à cette putain de corde!
Oh.
Vous voulez la fusillade, c'est ça que vous voulez? Samson, c'est pas à vous de faire la justice sous prétexte que vous êtes saoulé, que c'est votre jour de paye.
C'est pas à toi de nous dire ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire. De toute façon, tu vas te barrer vite, fais du Montana. Et toi là, je veux pas que tu sautes de ce truc, t'as entendu?
Sinon quoi? Tu vas me tuer?
La série télé, c'est quoi? C'est quand même pas des gens qui vont dans une salle de cinéma pour voir une série télé. C'est que c'est des gens qui sont chez eux, qui allument la télévision et qui voient des séries, voire qui les louent en DVD. Mais c'est un peu plus récent. En tout cas, série télé, c'est des choses qui s'invitent chez vous dans un foyer et que vous, que vous allez regarder, parfois à plusieurs. C'est pas une activité forcément de solitaire. Bon, d'où la dimension, non pas nécessairement formatée, mais c'est-à-dire qu'il faut finalement dire, y compris les choses par moments les plus critiques et les plus osées, mais en tout cas au plus grand nombre. Et donc le travail qu'a fait le western américain, par exemple, puisqu'on parle de ça à propos d'Impitoyable ou autre, a préparé, on pourrait dire, l'esprit du spectateur à voir un jour une série comme Deadwood à la télé. Mais Deadwood n'est possible que parce qu'il y a eu 35 ans, on pourrait dire, de destruction, reconstruction, métamorphose et mise à plat du western du gang des frères James à John McCabe. Enfin, esthétiquement, Deadwood, c'est John McCabe. Robert Altman, 71, il y a 37 ans. Le chasseur de primes, les vendeurs, la boue, la pluie, les traîtres, la dimension complètement dépressive, l'absence de valeur. Tout ça, évidemment, c'est Robert Altman dans John McCabe. Donc voilà, qu'il ait fallu 35 ans pour que ça puisse passer du cinéphile un peu averti, solitaire, au grand public familial de la série télé, c'est peut-être le temps qu'il faut.
C'était Série Télé, l'Amérique en 24 épisodes.
Mixage Pierre Mine.
Réalisation Lionel Quentin.
Une émission de Benoît Lagan et Éric Véra.
Bibliographie et liens sur notre site franceculture.com. Et par ailleurs, n'oubliez pas Générique, le magazine de la culture série.
Demain, l'espion, le nouveau héros américain.
Bonne nuit.
Alors où on va, au Colorado?
Ouais, d'accord.
Colorado, ça me parle. Joli petit coin.
Genre de vie a au moins un avantage.
Quoi du pays? En restant longtemps au même endroit, il risque de pousser des racines. Il finit par être un légume. Une
sorte d'oignon, la tête enfoncée dans le sol, hein? En route!
Il est 23h sur France Culture, retrouvez dans un instant Pierre Chevalier pour Sur les Docks, mais tout de suite, Axel Brucker vous présente ses bandes-annonces.